commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. J'en profite pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à ce rendez-vous du samedi matin, auquel nous avons convié aujourd'hui Alain Frachon. Bonjour Alain.
Bonjour Jean-Marie.
Alain Frachon qui est éditorialiste au Monde et qui tient d'ailleurs une chronique hebdomadaire dans ce journal. Et nous allons essayer d'aborder ce qui devrait être, à mon sens, une nouvelle grande bataille européenne, parce que les élections européennes se profilent, et en elles-mêmes, elles sont un enjeu considérable, on va voir pourquoi. Et en même temps, on voit bien que ressurgissent à la première occasion des polémiques et des mises en cause de l'Union européenne, de sa façon de faire, des normes qu'elle sécrète, mais au-delà même, un problème existentiel qui va se poser, qui se pose déjà à travers la guerre de la Russie contre l'Ukraine et qui va obliger les pays européens à, sinon à s'unir davantage, au moins à bien choisir leur destin pour le coup. Donc nous allons commencer peut-être par ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci en France, avec cette révolte agricole, révolte du monde paysan qui était d'ailleurs assez prévisible et qui est récurrente en France, mais qui aussitôt se part de couleurs critiques, voire anti-européennes. Anti-européennes dans les secteurs qui sont proches du Rassemblement National, bien sûr, mais aussi dans d'autres secteurs qui sont traditionnellement plus modérés sur ce sujet. Jean-Claude Casanova, comment regardez-vous cette récurrente aussi mise en cause de l'Union européenne dès lors que l'on parle d'un secteur qui pourtant est tenu à bout de bras par les fonds européens? Jean-Claude Casanova.
En gros, la réglementation économique des pays européens est décidé par l'Europe, et donc quand les intéressés sont mécontents d'une réglementation, ils imputent les défauts de cette réglementation à l'Europe. C'est frappant pour l'agriculture. Qu'est-ce que les agriculteurs reprochent? Ils reprochent une normalisation excessive et inégale, c'est-à-dire que on leur impose des normes qu'ils considèrent comme coûteuses, et ils considèrent que les normes ne sont pas appliquées partout, que par exemple les Espagnols sont moins normalisés qu'eux, et du coup que cela fausse la concurrence. Et par-dessus le marché, comme l'Europe est la puissance commerciale, c'est elle qui négocie les accords internationaux, l'Europe veut développer les échanges internationaux, elle veut permettre aux pays européens d'exporter. Pour exporter, il faut que les autres puissent également exporter, donc il faut des accords internationaux. Et les agriculteurs disent, on va conclure des accords internationaux avec l'Amérique latine, mais l'Amérique latine n'applique pas les mêmes normes que nous, notamment pour les produits qu'il faut introduire pour que les plantes soient de meilleure qualité. Donc la concurrence va être inégale. Donc le mécontentement porte là-dessus. Par-dessus le marché s'ajoute une caractéristique française, c'est que nous aimons réglementer les prix, et depuis plus d'un demi-siècle, le diesel ou le gazoil, pour les pêcheurs, pour les transporteurs et pour les agriculteurs, c'est beaucoup plus important que pour un père de famille qui transporte ses enfants dans sa voiture diesel. Et donc, s'il y a une augmentation pour telle ou telle raison du gazoil, il y a un mécontentement automatique des transporteurs, des pêcheurs et des agriculteurs, légitime d'ailleurs, puisque c'est une partie importante de leur coût de production, et qu'il n'y a pas encore de tracteur électrique. Comme il n'y a pas de tracteur électrique, il y a des tracteurs au gazoil, et donc il faut que le prix du gazoil n'augmente pas trop. Donc ce mécontentement est compréhensible, si vous voulez, et sans doute est lié à... Les normes sont nécessaires, mais les normes devraient être négociées par les producteurs et pas par des administrations trop éloignées des producteurs. Là, il y a un défaut des administrations modernes. On le sent aussi aux États-Unis, où l'administration fédérale n'est pas très aimée dans les États. Si Washington n'est pas aimée, et la réglementation qui vient de Washington n'est pas aimée parce qu'elle est trop éloignée du producteur. Et c'est très difficile dans les sociétés modernes de normaliser et de satisfaire en même temps.
Alors, il y a tout de suite une critique qui vient aussi, qui est une mise en cause. Alors, très forte, et qui met en cause d'ailleurs l'Union européenne et l'adhésion même parfois à l'Union européenne, et qui est la logique dite libre-échangiste de la Commission, mais qui l'est par parce que les gouvernements le veulent bien, et qu'on oppose à la maîtrise ou à ce que l'on appelle désormais la souveraineté alimentaire. Comment regardez-vous cela, Alain? Parce qu'on peut considérer aussi que dans l'affrontement, si on rapporte cela à l'affrontement, entre guillemets, entre les régimes autoritaires et les régimes libéraux, la démocratie libérale, peut-être les démocraties libérales ont-elles intérêt à s'entendre ou à s'unir pour prospérer davantage. Donc là, on voit que la concurrence en France se fait sur « Ah, mais moi, j'ai voté contre le traité de libre-échange avec le Canada, vous l'avez accepté, donc vous méconnaissez nos intérêts, et ainsi de suite. » On est tout de suite dans ce type de débat-là. Comment regardez-vous ce clivage, Alain Frachon?
On peut faire, je crois, deux remarques. La première, c'est que cette crise des agriculteurs, particulièrement en France, mais ailleurs en Europe, elle intervient, ou si vous voulez, elle touche deux grandes ambitions. La première, c'est pour l'indépendance stratégique du continent européen. On dit toujours, on a le sentiment qu'il faut conserver toutes nos productions agricoles. Bon, je pense que si chaque pays des 27 cherchait à être autosuffisant en matière agricole, ce serait absurde et très largement nous manquerions de beaucoup de produits. Cette ambition, elle doit être intégrée dans l'autre ambition, la grande ambition, qui est le climat. La lutte contre pour la protection de l'environnement au sens large, mais en l'espèce pour la lutte contre le réchauffement climatique. On a là deux grandes ambitions, l'ambition sécuritaire et puis l'ambition écologique, et elles doivent marcher ensemble. Donc c'est affaire de compromis systématique. On a quand même le sentiment que, en l'espèce, dans cette crise-là, celle d'aujourd'hui, le Green Deal, c'est-à-dire la grande ambition de lutte contre le réchauffement climatique de l'Europe, qui est la plus avancée dans le monde, qui est sans doute la plus avancée dans le monde, avec quelques grandes villes américaines qui, de leur côté aussi, avancent très vite. Mais elle est la plus avancée dans le monde. Quelle a été négocier, non pas de façon, pas du tout de façon antidémocratique. Tout ça est passé par la chaîne de décisions habituelles. Les décisions sont prises par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et puis ensuite, on demande à la Commission de faire un projet de directive. Les projets de directive reviennent devant le Parlement européen et puis rentrent dans les législations nationales après intervention des parlements nationaux. C'est compliqué, c'est pas très sexy, mais on peut pas dire que c'est pas démocratique. Sauf que, en l'espèce, ce que j'ai lu montre que on n'a pas mis les agriculteurs dans la grande négociation sur le Green Deal. Et on le fait maintenant, la semaine prochaine. On le fait maintenant. Et visiblement, il y a là une erreur d'écoute. Il y a dans le circuit de la prise de décision démocratique, dans chacun des pays comme au niveau européen, il y a une erreur d'écoute. Et qui fait qu'on arrive à une situation de crise qui était peut-être prévisible ou que l'on aurait pu éviter si le poids de l'agriculture européenne, si les agriculteurs européens, et ils ont une représentation syndicale, enfin professionnelle, au niveau européen, avait été sollicité. Donc je vois ça déjà. Et après, pour en revenir à la question que vous me posez, la deuxième question, c'est cette question de l'acceptation du libre-échange. Alors, il y a des pays qui sont plus ou moins libre-échangistes, naturellement, et, je veux dire, leur histoire, idéologiquement, qui sont libre-échangistes. Bon, c'est pas le cas de la France, c'est pas le cas des États-Unis, mais c'est le cas du monde anglo-saxon, au sens très large, protestant, anglo-saxon, comme on veut. Là encore, c'est compliqué, parce que, je reviens à l'exemple qu'évoquait Jean-Claude, les agriculteurs français disent, et on peut comprendre, véritablement, ils disent, c'est quand même étonnant, il y a des produits, il y a des productions auxquelles nous n'avons plus accès, qui sont interdites en France, soit c'est parce que c'est la norme européenne, soit parce que la France, et c'est son habitude, surnorme. Elle surnorme, c'est-à-dire qu'elle en rajoute sur ce qu'a décidé Bruxelles, souvent par ambition politique, ou voire ambition tout à fait légitime. Alors il y a des productions auxquelles nous n'avons plus accès. Parce qu'on considère que l'environnement phytosanitaire qu'elle suppose, l'accompagnement, est dangereux, soit pour le climat, soit pour la santé, ceci, cela, l'avenir, l'environnement en général, la biodiversité. Mais on n'interdit pas des pays étrangers, étrangers à l'Union européenne, voire en ce moment l'Ukraine, pour appeler les choses par leur nom, on n'interdit pas des productions venant de ces pays, donc faites, produites dans des conditions phytosanitaires qui nous sont interdites à nous de vendre sur le marché français. Et là, c'est toute la discussion autour du libre-échange à égalité de contraintes. Mais précisément, les contraintes dans le libre-échange, c'est l'avantage comparatif. Enfin, Jean-Claude pourrait confirmer ça. Et donc, c'est entendu, nous interdisons ce type de production, mais nous laissons rentrer. Oui, mais le libre-échange fonctionne aussi un peu comme ça.
Jean-Claude Casanova.
Je n'ai rien contre les normes que l'on impose pour des raisons climatiques ou des raisons sanitaires. Mais il faut bien voir que le renchérissement des coûts déplaît aux producteurs et que le renchérissement des prix déplaît aux consommateurs. Et donc, c'est une question de graduation et d'habileté politique. Ségolène Royal avait eu pour une fois une excellente formule. Elle avait dit, il ne faut pas que l'écologie soit punitive. Si l'écologie, ça consiste à augmenter les coûts et augmenter les prix, elle ne sera pas acceptée, point à la ligne. Et il faut donc une flexibilité politique. De même, si vous voulez, si on importe librement des produits qui ne subissent pas les mêmes contraintes que les nôtres, il faut comprendre que les producteurs français ou les producteurs européens soient mécontents. C'est dans la nature des choses et donc il faut, sauf cas, l'Ukraine, pour des raisons politiques évidentes, nous devons favoriser les exportations de l'Ukraine. Ça réduira le coût des armements que nous donnerons à l'Ukraine. Donc, et pour des raisons morales et politiques, il faut l'accepter. L'Amérique latine, c'est moins évident. Vis-à-vis de l'Argentine ou vis-à-vis d'autres pays d'Amérique latine, nous pouvons parfaitement leur dire, nous importerons vos produits si vous appliquez à vos produits les mêmes normes que nous, sinon nous ne les importerons pas. Et donc je crois que on est dans le processus normal du mécontentement et de la négociation. On ne peut pas avoir des gens perpétuellement heureux et il faut perpétuellement négocier et il faudrait éviter que le mécontentement s'exprime, il ne faudrait pas attendre si vous voulez, il faudrait prévoir le mécontentement. Je crois que il y a quelque chose d'étonnant dans le... Jamais l'Europe n'a été aussi administrée. Si vous faites des comparaisons statistiques sur le degré d'administration en 1900, sur le degré d'administration en 1950, le degré d'administration aujourd'hui, vous avez une gigantesque prolifération administrative. Et malgré cet énorme progrès administratif, je ne vois pas de diminution du mécontentement.
Certes, ce mécontentement que vous évoquez, Jean-Claude Casanova, va se traduire probablement dans les 3 mois qui viennent par ce que l'on va constater aux élections européennes. Et de ce point de vue-là, il faut rappeler d'ailleurs que la crise agricole, elle n'est pas seulement limitée à la France, elle concerne les agriculteurs allemands, les agriculteurs polonais, les agriculteurs roumains, etc. Les Allemands étant les plus démonstratifs pour le moment. Et donc ce mécontentement va conduire probablement à des élections européennes difficiles pour les partis dits gouvernement et annoncé comme devant traduire une nouvelle flambée ou poussée des forces dites populistes ou protestataires. Comment regardez-vous cette perspective d'une Europe qui serait donc à son tour bousculée par la pression et la poussée des partis populistes qui sont déjà au gouvernement dans un certain nombre de pays, notamment en Hongrie, qui est le cas le plus caractéristique, mais aussi en Italie, avec les nuances que l'on peut apporter à la lecture de ce que fait Madame Meloni. Mais néanmoins, donc, allons-nous vers cela? Et donc, ça conduirait à une nouvelle épreuve de force, parce que ces forces populistes, elles sont, par définition, le plus souvent anti-européennes. Alain Frachon.
Oui, c'est paradoxal, cette situation, mais... Là encore, il y a une question d'écoute qui paraît assez fondamentale. Au fond, dans le cas de l'agriculture, je dis le paradoxe est évident, puisque un tiers du budget de l'Union européenne, et ça représente, on compte en milliards, un tiers du budget de l'Union européenne, hein, le budget européen, un budget qui court sur 7 ans, un tiers de ce budget va à l'agriculture. Donc, imaginons pas qu'il puisse y avoir une agriculture viable sans l'Union européenne. Et là, on arrive à l'argument des partis populistes ou protestataires, qui est de toujours avoir un bouc émissaire. Alors, il y a 2 grands boucs émissaires. Il y a l'immigration et il y a les élites. Et les élites, ça veut dire l'Union européenne. Alors, parce que l'Union européenne produit des normes, le marché unique
c'est du droit. L'Union européenne, c'est des normes, donc c'est une grosse machine normative. Et alors, c'est très facile de dire, bon, quelquefois c'est juste, quelquefois, la plupart du temps, c'est complètement farfelu. Mais l'Union européenne est assimilée aux élites, c'est-à-dire un grand projet, une ambition dont les élites seraient le seul moteur, comme si cette ambition n'était pas partagée. Mais c'est une caractéristique du parti populiste, ça justifie leur nom d'ailleurs, qui est de dire qu'ils ont le monopole de la représentation du peuple. C'est faux, ils représentent le nombre d'électeurs qu'ils ont dans chaque pays, qui est en ce moment en progrès, sur une cause qui est celle de l'immigration. Alors, les États-Unis comme l'Europe, mais les États-Unis beaucoup plus que l'Europe, sont en ce moment, du fait de notre succès, du fait de notre prospérité, du fait des libertés dont nous disposons, nous sommes l'objet d'une vague migratoire sans précédent, très forte. Et je dis encore, beaucoup plus forte aux États-Unis. Je pense que si Donald Trump est élu, ça sera à cause de cela, à cause de ce qui se passe à la frontière mexicaine. Mais l'Europe aussi, naturellement, est le récipiendaire de beaucoup de demandes, la plupart du temps pour des raisons économiques et sociales. Voilà, ce sont deux questions qu'on ne peut traiter qu'au niveau de l'Europe.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes en compagnie d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Nous évoquons un certain nombre de questions européennes, notamment la perspective des élections européennes et celle d'un courant populiste qui s'affirme et dont la traduction la plus spectaculaire, d'ailleurs, j'allais dire, et la plus dangereuse probablement, se situe en Allemagne, avec l'AFD qui progresse et notamment dans les intentions de vote. Donc les élections européennes risquent de marquer cette nouvelle avancée alors que tout ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire la guerre de la Russie en Ukraine, mais pas seulement, il y a aussi la stratégie militaro-nationaliste développée par la Chine elle-même, donc qui pose une question existentielle même pour l'Europe. Est-ce qu'on va pas être au fond, avec cette poussée populiste, éloigné des réponses stratégiques qu'il faudrait élaborer ensemble, Jean-Claude Casanova?
Alain Frachon vient de le dire et sa formule est tout à fait exacte, c'est l'opposition entre les élites et les problèmes. Parce que l'extraordinaire paradoxe européen, c'est que les trois grands problèmes européens sont la sécurité de l'Europe. L'Europe est menacée à l'Est et abandonnée à l'Ouest, si Trump est élu. Donc, l'Europe a un problème de sécurité, l'Europe a un problème agricole, et l'Europe a un problème énorme d'immigration, comme les États-Unis d'ailleurs. Or, ces trois problèmes ne peuvent être vraiment réglés qu'au niveau de l'Europe, et c'est l'Europe qui est critiquée. Donc, il y a un extraordinaire paradoxe, si vous voulez. Alors, les Italiens, c'est la seule extrême droite qui a l'air raisonnable, puisque l'extrême droite italienne et atlantique et européenne. Donc,
modèle Meloni.
Si vous voulez. Mais il n'est pas sûr que Meloni triomphe à l'intérieur de son propre camp, si vous voulez. Alors les Suédois sont aussi un peu sur la même ligne, si vous voulez. Mais il faudra il faudrait au fond que l'extrême droite influence le centre en obligeant le centre à adopter un certain nombre de règles politiques. Donc c'est, je crois, ce qui va se produire pour l'Europe, si vous voulez. Il faut que l'Europe se donne une politique de l'immigration, mais qu'elle ne confie pas cette politique de l'immigration à la partie de l'Europe qui est la moins capable de gouverner.
Par ailleurs, on a l'impression quand même d'être dans une sorte de course de vitesse, parce que si l'on fait bien attention à ce que dit par exemple Vladimir Poutine, à ce que disent aussi les experts militaires, je pense à cette semaine-là, ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la déclaration du chef d'état-major des armées britanniques disant, pas seulement s'agissant des militaires, mais s'agissant aussi de l'opinion, des citoyens, il faut se préparer à la guerre. Et si on écoute le ministre de la Défense allemand, lui dit, d'ici 5 à 8 ans, il faut considérer que nous serons agressés par la Russie, militairement. Donc, il y a cette ambiance-là, et ces appels répétés d'un certain nombre de chefs militaires ou d'autres, qui nous disent, mais attention, regardez ce qui est en train de se préparer. Et nous sommes, d'une certaine façon, un peu tirés en arrière par des mouvements de protestation qui au fond, ciblent l'Union européenne elle-même. Alain Frachon, comment sortir de ce cas de figure?
Bon, je crois que, évidemment, l'air du temps, ça compte beaucoup en politique. Ça nous influence, nous, les commentateurs en studio. Ça influence aussi l'opinion publique et naturellement aussi les gouvernants. Et on peut avoir, par moments comme ça, le sentiment, sans tomber du tout dans le catastrophisme, mais qui existe aussi souvent, sur les réseaux sociaux, en tout cas, mais sans tomber dans aucun catastrophisme, il faut... essayer de regarder cette, j'appelle ça le sentiment d'une sorte de vertige. D'un côté, les Européens ont toujours jugé que les États-Unis étaient leur police d'assurance militaire pour toujours. Et on voit bien que ça va pas pour toujours être comme ça. Biden a son âge, c'est aussi à cause de son âge qu'il mène cette politique. C'est un homme de cette génération, celle qui a édifié le système international que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale et que nous considérons comme un filet de sécurité pour toujours. Il se peut que la prédiction gaulliste s'avère un jour et il se peut que nous entrions dans cette période-là. D'où ce sentiment qu'il faut consacrer 2%, ce qu'on devrait consacrer, 2% de la richesse nationale à la défense, qu'il faut faire un effort sécuritaire, que quelque chose de très important se joue dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisqu'il s'agit d'arrêter l'expansionnisme de la Russie de Vladimir Poutine, et de l'autre côté que nous ne pourrons pas toujours compter sur les États-Unis, que le président, si c'est pas le président Trump, ça finira un jour par venir. Et quand on additionne les budgets européens de la défense des 27 membres de l'Union européenne, nous devrions être capables, au moins financièrement, être capables de remplacer les États-Unis en ce qui concerne l'assistance à l'Ukraine. Donc il y a ça. Et de l'autre côté, il y a la grande puissance émergente de notre époque, c'est la Chine. Et la Chine, elle a déclaré, il faut lire ce que dit le président Xi Jinping, il faut lire cette littérature impossible des résolutions des congrès du Parti communiste tous les 5 ans. La Chine nous dit, l'enrichissement, la richesse n'est plus notre priorité. Notre priorité, c'est ce que nous entendons par sécurité. Sécurité, ça veut dire le Parti communiste a la main sur la société civile de plus en plus chinoise et ça ne va pas changer. Sécurité, ça veut dire nous avons le droit en tant que grande puissance à une zone d'influence dans le Pacifique où les États-Unis n'ont rien à faire. Sécurité, ça veut dire que nous ferons barrage à toutes les idées, les concepts qui imposeraient des normes occidentales en matière de gouvernance ou de liberté. C'est écrit, ils nous le disent. Et c'est la puissance émergente, la puissance avec laquelle nous ne pouvons pas ne pas avoir de relations économiques et autres, etc. Tout ça, à mon avis, crée le sentiment d'un certain vertige auquel s'ajoute strictement pour l'Europe, l'angoisse de l'avenir. Parce que l'angoisse de l'avenir, c'est un élargissement qu'il faut sans doute faire, qu'il faut faire pour un tas de raisons, mais qui s'avère très difficile et qui peut remettre en cause la construction européenne telle qu'on l'a connue jusqu'alors. Et donc, vous avez comme ça un horizon qui est fait d'inconnus, d'hostilité ou d'inconnus. Eh bien, ça crée ça. Et je pense que, dans ce qu'on appelle aussi la montée des mouvements protestataires ou des partis populistes, il y a un peu de cette angoisse.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, et je mesure en même temps la difficulté, parce que, au fond, là aussi, il y a un paradoxe européen. Les tâches européennes sont de plus en plus complexes, de plus en plus importantes. L'Europe a désormais, vis-à-vis d'elle-même, d'énormes responsabilités. L'Europe doit sans doute s'élargir, mais elle ne peut pas s'élargir sans se réformer profondément. Les mécanismes actuels ne sont pas satisfaisants. Les tout petits pays jouent un rôle trop grand par rapport à leur dimension. dimension, les grands pays ne sont pas suffisamment coordonnés, etc. Donc il y a un problème de la refonte, du perfectionnement du système européen, et en même temps, face à ces besoins, face à ces énormes besoins, il y a une incompréhension ou une indifférence, un mécontentement, tout se combine, des Européens à l'égard des tâches à accomplir. C'est-à-dire que les élites, c'est d'où une profonde divergence entre ce que Alain appelait les élites et les peuples, si vous voulez. Les peuples mesurent mal les tâches à accomplir et du coup les élites sont incomprises. Et donc, toutes les idées qui sont invoquées actuellement, le sursaut, se remuscler, la souveraineté, toutes ces idées vont dans le bon sens. Elles traduisent ce paradoxe, mais nous sommes loin des résultats positifs et d'une parfaite clairvoyance. Je ne suis pas sûr que les élections européennes fassent apparaître un degré supplémentaire de clairvoyance.
On verra comment se déroule ce scrutin. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans la période qui va précéder ce scrutin précisément, c'est-à-dire les 3 mois qui viennent. Sur les élites, juste un mot, lors du massacre de Katyn, ordonné par Staline, et qui vise à éliminer, et qui élimine les élites polonaises, Staline avait eu ce mot, pas d'élite, pas de problème. Donc dès lors qu'on se tourne contre ces élites, évidemment, c'est le plus sûr chemin vers le déclin et vers le fait d'être rayé de la carte. Mais ceci est une autre histoire. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Merci à Alain Frachon, éditorialiste au Monde, d'avoir été avec nous. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.